Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci d'être ici. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs?
Je parle d'expérience. J'ai été président pendant 5 ans et j'ai compris que cette coexistence d'un président de la République élu pour 5 ans et investi par le pays d'une mission et d'un premier ministre dont on ne voit plus tellement quel est le rôle, exécutant, collaborateur ou essayant de se différencier, crée une confusion dans le pays et peut-être même des retards dans la prise de décision. C'est la raison pour laquelle, après cette expérience et au fur et à mesure d'une réflexion qui a abouti aujourd'hui, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique du quinquennat et de l'inversion du calendrier. Le président est le chef de l'exécutif. C'est lui qui doit mener les réformes qu'il a présentées au pays et ne peut pas déléguer comme ça ses pouvoirs aux fonctions des circonstances. Tantôt il intervient directement, tantôt il se met en retrait. Pour prendre cet exemple, Emmanuel Macron, président de la République, a été élu sur une promesse qu'il avait faite de faire une réforme des retraites. À partir de là, il lui appartient de la mettre en œuvre et il ne peut pas dire qu'il en est éloigné. Il est forcément directement comptable, responsable et éventuellement coupable.
Et alors là, qu'est-ce que ça permettrait de faire si cette réforme était effective? Est-ce que vous pensez finalement qu'Emmanuel Macron utilise Édouard Philippe comme un fusible au gré des circonstances? Dites-vous ce qui signifie qu'il le fait lorsque cela l'arrange?
Bah, il s'était déjà beaucoup exprimé sur les retraites, puis ensuite il s'est mis un peu de côté pour revenir ensuite à la fin, j'imagine, comme décideur, parce que les Français, ce qu'ils attendront, c'est pas le mot du Premier ministre, le compromis que j'espère être l'issue de ce conflit, ce qu'ils attendront, c'est la position du président de la République, puisque c'est lui qui a été élu par les Français. Donc l'idée qu'il y aurait une forme de prise de distance ou de hauteur ne tient pas. Il y a dans la République un principe de responsabilité.
Sur le fond, vous aviez vous-même mené une réforme des retraites en 2013. À l'époque, il n'y avait pas eu ces heurts sociaux. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'elle était moins ambitieuse, moins profonde qu'aujourd'hui?
Oui, elle était dans le système actuel de répartition, c'est-à-dire les actifs cotisant pour le paiement des pensions. Ce que j'avais mis en place avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'était Marisol Touraine qui était ministre, c'était une concertation avec les syndicats qui n'avait pas duré 2 ans. Qui avait duré quelques semaines et qui avait posé 2 principes qui permettaient de comprendre ce que nous faisions dans la justice. Le premier, c'était, c'est vrai, quand l'espérance de vie s'allonge, il est assez légitime que la durée de cotisation elle-même puisse être élargie, ce qui a été intégré dans la loi, mais nous avions introduit la pénibilité.
Et donc là, c'est un problème de fond ou de méthode?
Ah là, je pense que c'était un problème et de méthode et de fond. C'est-à-dire, la méthode, la concertation a duré 2 ans, mais n'a rien permis de clarifier. Au contraire, elle a introduit beaucoup de flou. Et de fond, parce que ce qui est contesté, notamment à travers l'âge pivot ou la remise en cause des critères de pénibilité, c'est précisément le fait que cette réforme, qui était vraie d'ampleur globale, n'apporte pas ni les garanties de pérennité, c'est-à-dire le financement, ni les garanties de justice. C'est ce qu'il faut absolument obtenir dans la négociation qui maintenant est ouverte. Mais enfin quand même, 34 jours de conflit, et c'est aujourd'hui seulement que l'on est peut-être, c'est même pas encore sûr, vers la forme d'une éventuelle issue, en attendant, comme je l'ai dit, que Frédéric Saïs a précisé, que le président de la République parle.
8h25 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes en compagnie de François Hollande pour évoquer 5 ans depuis l'attentat contre Charlie, contre l'attentat sur l'hypercachère. Il y a 5 ans, Monsieur le Président, que faisiez-vous lorsque vous avez appris l'attentat contre Charlie Hebdo?
Le 7 janvier 2015, j'étais à mon bureau à l'Élysée. Et vers 11h plus, j'ai été informé par une dépêche d'agence et puis par mes propres services qu'il y aurait une attaque contre les locaux de Charlie et des hommes se seraient introduits dans l'immeuble sans qu'on sache à ce moment-là l'ampleur du drame et de ce qui s'y produisait. Et il se trouve que Patrick Peloux, qui est un ami et qui est à la fois ou était à la fois membre de la rédaction de Charlie et aussi dans les services d'urgence, me téléphone parce qu'il avait mon numéro de portable et me décrit la scène qu'il voit comme médecin. C'est-à-dire une rédaction décimée, des amis à terre, suffoquant, d'autres déjà morts, et il est en sanglots, et je comprends que nous ne sommes pas simplement devant une attaque qui aurait eu que des conséquences matérielles, nous sommes devant une tragédie, c'est-à-dire un attentat terroriste, je ne sais pas encore mené par combien de personnes, et la seule question que je me pose à ce moment-là, c'est d'aller le plus rapidement sur place, et de pouvoir à la fois constater l'ampleur de ce qui vient de se produire, faire la traque aux terroristes qui viennent de commettre cet acte innommable et de m'exprimer devant les Français. Et après quelques minutes où je fais en sorte que la sécurité puisse être autant qu'il est possible assurée, je me rends sur les lieux. Et j'assiste à ce moment-là au travail des secours et je vois les blessés sortir, quelquefois dans des états désespérés. Et je sais que beaucoup de mes amis, parce que dans la rédaction de Charlie Hebdo, j'avais des amis, sont morts.
François Mitterrand disait que la première qualité d'un chef de l'État, c'était l'indifférence. À ce moment-là, est-ce que on peut justement mettre de côté son émotion pour raisonner de manière rationnelle? Qu'est-ce que vous avez fait, François Hollande, Monsieur le Président?
Il ne faut pas... C'est impossible d'être indifférent quand il se produit un acte de cette nature et de cette ampleur. Indifférent aussi par rapport aux conséquences. Une société comme la nôtre, frappée parce que la liberté d'expression a été atteinte, c'est un bouleversement dans notre société. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument que notre pays fasse bloc, et il a fait bloc. Mais il faut montrer, non pas de l'insensibilité, mais de l'impassivité, c'est-à-dire ne pas montrer aux terroristes qui ont voulu nous porter cette attaque que nous sommes nous-mêmes atteints, et que nous sommes plus forts qu'eux, non pas simplement par une action d'autorité, elle doit devenir, ou de fermeté, elle est nécessaire, mais justement par une action d'humanité et d'unité. Moi, ce qui me paraissait essentiel dans cette période, c'est de dire aux Français que c'était leur force d'être unis, et ils l'ont été, après aussi l'hyper-cacher, quand il y a eu cette grande manifestation du 11 janvier, qui pour moi est la plus grande fierté que nous pouvons aujourd'hui démontrer après ces attentats.
Il y a aussi eu des polémiques, Charlie Hebdo était manifestement mal gardé, Charb avait fait une demande de port d'armes, laquelle lui avait été refusée. Monsieur le Président, est-ce que là, il n'y a pas clairement eu des dysfonctionnements? Est-ce que l'appareil d'État, dans son intégralité, n'a pas eu des regrets, des remords après ces attentats?
Ces questions, elles sont légitimes et les familles les ont posées. Il ne s'agissait pas d'armer les journalistes. Qu'est-ce qu'on dirait si les journalistes maintenant devaient sortir avec des armes ou faire leur travail avec des armes? Il s'agissait de savoir si le dispositif de sécurité était au bon niveau. Il y avait un policier qui était parmi la rédaction. Ce policier a été tué. Il y en avait un autre qui était normalement à disposition. Et aujourd'hui, tous les journalistes de Charlie, tous ceux qui ont été à un moment ou un autre blessés, sont protégés. Parce que c'est nécessaire de les protéger, mais l'expérience prouve que même avec une protection, la vulnérabilité est toujours là. Donc la menace est toujours là. Mais c'est vrai que nous devons élever encore notre niveau de protection.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que, et Riss le dit très bien, quand même, savoir qu'aujourd'hui en France, pour faire son travail de journaliste ou de dessinateur, il faille être protégé, est un problème. Car la liberté d'expression ne demande qu'à être protégée par les citoyens, pas par les policiers. Et pourtant, il faut le faire.
Frédéric Seyss, quand vous parlez de cette année 2015, on vous a souvent entendu utiliser une expression, vous dites que le pays aurait pu basculer. Concrètement, ça voulait dire quoi, un pays qui bascule?
Un pays qui bascule, ça veut dire un pays qui se déchire, qui se divise, qui cherche des coupables là où ils ne sont pas. C'est-à-dire, y compris dans les pratiquants d'une religion. C'est un pays qui doute de lui-même et qui pense qu'il faut bafouer l'état de droit pour être plus en sécurité. C'est un pays qui considère que à ce moment-là, il faut introduire une république des suspects, c'est-à-dire mettre des gens, avant même qu'ils n'aient commis des actes, dans une situation de privation de liberté, une surenchère dans l'extrémisme. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ni après Charlie, l'hypercacher, ni après le Bataclan. Et je peux ici dire que le gouvernement, ma présidence, ont veillé à ce que les principes d'unité, d'état de droit puissent être préservés, même avec l'état d'urgence.
La déchéance de
provisoire.
La déchéance de rationalité, de nationalité.
Qui peut être les deux d'ailleurs.
Effectivement. La déchéance de nationalité qui a été donc mise au devant de la scène comme l'une des solutions préconisées par vous-même, François Hollande, Monsieur le Président. Est-ce que ça n'était pas justement une manière d'en rabattre contre l'État de droit ?
Oui, la déchéance de nationalité existe dans notre droit. Il y a des personnes, justement, qui, après les attentats de Charlie, ont été déchus de leur nationalité. Même si ça n'avait pas de rapport avec les attentats de Charlie, mais c'était des personnes qui avaient commis des délits terroristes. Mais c'était dans une situation un peu particulière, c'était ceux qui avaient acquis la nationalité française, les naturalisés. Ce que, à un moment, par un souci de consensus après le Bataclan et les terrasses et le Stade de France, j'avais suggéré, c'était que l'on puisse élargir la déchéance de nationalité. Ça n'a pas été compris, ça a même été regardé, alors même que ça ne concernait que les crimes terroristes, ça a même été regardé comme effectivement un recul de l'état de droit, et c'était pas le cas. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas tellement ce qui est la réalité, c'est le sentiment. Et il ne fallait pas donner le sentiment de reculer par rapport à l'état de droit.
Ça a même été perçu comme une manière de revenir à des symboles, à un temps où on pouvait être apatride. Une partie de votre camp, François Hollande, Monsieur le Président, a été en opposition très vive à cette mesure.
Oui, c'est pour ça que dès lors que il y avait cette distinction qui était faite entre les doubles nationaux et ceux qui n'avaient que la nationalité française, certains avaient dit, finalement, il faut retirer aussi la nationalité française aux Français, ce qui aboutissait à l'apatridie. J'en avais discuté avec Robert Badinter, qui était là il y a quelques minutes. On avait considéré que c'était pas possible d'aller jusque-là, donc on en est resté à l'état de droit d'aujourd'hui, qui prévoit, je le confirme, une déchéance de nationalité dans certaines circonstances.
Toujours dans les polémiques suivant l'attentat, il y a eu l'idée, en tout cas la thèse, qu'une partie de la gauche aurait eu des tentations ou des tendresses coupables à l'égard d'une certaine frange de l'islamisme, en tout cas ceux qu'on appelle des islamo-gauchistes. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez ?
Non, moi je ne reprends pas ces termes-là, mais il n'y a aucune faiblesse à avoir. Face à l'antisémitisme, il n'y a pas à regarder des degrés. C'est une question de principe, j'allais dire presque de une question fondamentale. Il n'y a pas des excuses à donner à l'antisémitisme ou des justifications à l'antisémitisme comme au racisme. Donc il faut être extrêmement clair. Je l'ai toujours été, sans avoir besoin d'en rajouter, mais il faut dénoncer tous les comportements, tous les actes, tous les propos antisémites, sans que on puisse se dire qu'il y aurait, par rapport à telle ou telle situation, la situation du Proche-Orient notamment, la question palestinienne, à avoir quelques faiblesses par rapport à cette réalité.
Ça, c'est la question donc de l'antisémitisme. Pour la question des caricatures de Mahomet, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de cela pour Charlie Hebdo, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y avait une forme de facilité de faire des caricatures pour blesser des gens qui étaient déjà stigmatisés ? C'est ce que disait une partie de la gauche, François Hollande.
Il se trouve qu'avant d'être président de la République, j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste. Ça existait, le Parti Socialiste, c'était une force qui d'ailleurs, à mon avis, doit rester une force. Mais j'avais témoigné au procès, car il y avait eu un procès contre les caricatures que Charlie avait pu faire. Et j'avais témoigné au procès pour Charlie, pour la liberté, et faire en sorte que ceux qui menaient ce procès puissent être déboutés de leur action, ce qui fut le cas. Et j'étais intervenu, retrouverez mes propos, pour dire que justement, il n'y a pas de négociation sur la liberté. Il n'y a pas un droit à respecter en particulier les religions. Vous savez qu'il y a encore des pays où le blasphème est condamné. 60 pays condamnent encore le blasphème. Donc en France, il n'y a pas de condamnation du blasphème. Donc, à partir de là, cette liberté-là, qui n'est pas la haine, parce que c'est ça la grande différence, qui a été évoqué au moment de Charlie en disant « Oui, mais vous êtes finalement implacable par rapport à l'antisémitisme, mais quand même, sur d'autres propos, vous rappelez d'un certain humoriste de triste réputation, on disait « Mais là, vous êtes extrêmement dur avec lui, et puis vous êtes quelquefois tolérant par rapport à... »
Non, on parle de Dieudonné. Hein.
Mais oui, vous avez compris. Je vous remercie pour cette traduction. Mais non, c'est la haine qui doit être condamnée. C'est pas de rire, c'est pas de dénoncer ou parfois de se moquer. C'est la haine des pratiquants d'une religion.
Frédéric Seitz.
Vous avez beaucoup insisté à l'époque sur la notion d'unité nationale. C'est un mot qui revenait évidemment souvent dans vos discours. Vous avez aussi entendu lors de ses vœux Emmanuel Macron promettre de lutter, je cite, contre les forces qui divisent la nation. Le gouvernement s'interroge notamment sur l'interdiction des listes communautaristes aux élections municipales. C'est possible de le faire? Vous étiez posé ces questions, vous?
Non, moi je ne m'étais pas posé la question pour les élections municipales, peut-être parce que il y en avait pas au moment où ces attentats avaient eu lieu, mais il y a des règles dans la République. Moi, ce que je déplore parfois, et j'ai pu commettre moi-même ce défaut-là, c'est d'imaginer toujours qu'il faille ajouter une loi à des lois existantes. Ce qu'il faut, c'est appliquer les lois existantes. Et par exemple, si se présentaient des listes de nature communautariste affirmées comme telles, c'est-à-dire écartant des citoyens parce qu'ils ne seraient pas pratiquants d'une religion, ça tomberait sous le coup de la loi.
Sur l'antisémitisme, là aussi, l'attentat contre Charlie Hebdo, puis l'attentat contre l'hypercacher, Monsieur le Président, est-ce qu'on avait sous-estimé, sous-évalué la menace contre les Juifs en France?
Ah non, pas moi en tout cas, parce que il y avait depuis des années des actes, des propos antisémites, et leur nombre, hélas, de cesser de progresser. Et il y a eu aussi des drames qui ont concerné des Juifs. Le jeune Halimi qui avait été lâchement assassiné, qui nous laissait penser qu'il y avait une haine qui s'était introduite. Et puis Charlie avait été, on parlait du procès, qui avait été plusieurs fois dénoncé. Au Danemark, il y avait eu aussi des attentats qui avaient été commis. Donc on savait que les Juifs de France pouvaient, était même soumis à un certain nombre de menaces et d'actes antisémites. Donc à partir de là, nous étions tout à fait conscients qu'il pouvait y avoir, et ça s'est hélas produit, des attaques contre des lieux de culte. Et c'est pour ça que, avec les gouvernements aussi bien Valls que Cazeneuve, nous avons protégé tous les lieux de culte, aussi bien les synagogues que les mosquées ou les églises. Mais c'est vrai que c'était à un moment les synagogues qui étaient particulièrement visées. Les mosquées l'ont été. On a eu aussi, il y a encore peu de temps, des actes qui ont été commis contre des mosquées. Donc c'est vraiment des actes anti-musulmans, antisémites, des actes anti-quelquefois catholiques, c'est arrivé aussi. Ces actes-là doivent être sévèrement punis et dissuadés.
Les attentats se succèdent en France. Il y a eu de nombreuses attaques au couteau encore récemment. Monsieur le Président, est-ce que on peut faire quelque chose? Est-ce que on est condamné à les voir se succéder, ces attentats?
Alors, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que on n'est plus devant des réseaux terroristes aussi constitués quand Daesh était une organisation qui occupait un territoire et qui organisait ces attentats. Là, on est en face d'individus qui commettent sous pression, dans le cadre d'une radicalisation, mais aussi d'une ambiance, qui commettent des agressions et qui le font avec la référence parfois de de l'État islamique. Mais nous n'avons plus à ce niveau des réseaux, parce que nous avons démantelé la plupart, parce que Daesh s'est écroulé en Syrie et en Irak, nous n'avons plus la même organisation en face de nous. Mais la menace, elle est toujours là, même si on a vu par exemple qu'à Nice, le 14 juillet 2016, c'est un individu seul qui, avec un camion, commet un acte terrible.
Vous venez d'évoquer Daesh. La situation au Proche-Orient aujourd'hui, monsieur le président François Hollande, qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Une très grave préoccupation. Il y avait déjà une tension entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. La décision de Donald Trump d'éliminer le général Soleimani ajoute encore à cette tension. Et ça a des conséquences très, très lourdes que je veux ici évoquer. D'abord, le régime iranien sort renforcé de cette épreuve. On l'a bien vu avec ces manifestations. Donc si l'intention était d'affaiblir l'Iran, c'est raté. Et de ce point de vue, Donald Trump a pris une grave responsabilité. Deuxièmement, même si c'est une bourde, maintenant on apprend qu'une lettre a été envoyée pour le retrait des forces américaines d'Irak et donc de la coalition. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'objectif qui était de lutter contre Daesh, Daesh responsable des attentats, y compris à Paris, eh bien, on voit bien que Daesh peut ressurgir. Enfin, pour l'Irak, qui connaissait un mouvement de contestation des dirigeants, y compris d'influence iranienne, eh bien, l'Irak est mis dans une situation extrêmement douloureuse, avec une jeunesse qui ne sait pas où aller. Donc je pense que de ce point de vue, bien sûr qu'il faut éviter l'escalade, bien sûr qu'il faut favoriser le dialogue, mais à un moment, il faut aussi que les responsabilités soient évoquées. Je pense que Donald Trump, depuis maintenant qu'il est président des États-Unis, a mis le monde en danger. Et si on ne le dit pas suffisamment, on ne pourra pas faire avancer la cause qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une Europe qui a des valeurs, qui a des principes, et d'une France qui sait, à un moment, s'opposer à ce type de dérive.
L'Iran n'était pas inerte, néanmoins.
Bien sûr que l'Iran a commis des actes tout à fait dangereux, crée une tension dans la région. J'évoquais la Syrie.
Une présence iranienne nombreuse. Est-ce qu'il n'y a pas une présence...
La présence du Hezbollah, de l'Iran en Syrie est évidente.
Et mais est-ce qu'elle est légitime ?
Elle n'est pas légitime. Et ce n'est pas parce que nous considérons que l'Iran commet commet des actes graves dans la région qu'il faut se mettre à ce niveau et utiliser des moyens comparables.
Mais qui est responsable de l'escalade, selon vous ? On a vu qu'Emmanuel Macron avait affiché son soutien plein et entier avec Washington. C'était la bonne position ?
Je pense que l'Iran est responsable d'une tension déjà depuis plusieurs années. Mais que la décision qu'a prise Donald Trump est plus que malencontreuse, elle est grave. Et à un moment, il faut le dire. On ne peut pas être solidarité à l'égard de ce qui vient de se produire, qui est une escalade extrêmement dangereuse. Donc à partir de là, le rôle de la France, c'est aussi, à un moment, de dire les responsabilités, celle de l'Iran est là, elle est lourde, mais aussi de dire qu'aux États-Unis, on ne commet pas des actes de cette nature sans en mesurer les conséquences.